Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Une semaine entière avec le philosophe et sociologue Edgar Morin dans les nouveaux chemins de la connaissance autour de la pensée complexe et ses ramifications. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. Alors on va passer toute la semaine avec vous et autour de vous pour parler de votre œuvre, de votre travail, un travail complexe, c'est le mot à double titre. D'abord parce qu'il est divers, la disparité de ce travail, la multiplicité des champs d'application est étonnante. Et ensuite, il se constitue en entrelacs. Et ensuite parce que la complexité, c'est le maître mot, c'est le mot dont vous vous servez pour qualifier votre démarche et essayer de penser le monde, une grille complexe, une grille d'intelligibilité bien sûr, mais elle est complexe. Donc on va voir si un système échappe à la tentation binaire avec vous, Edgar Morin. Première question, toute simple, hein, évidente, il faut partir du commencement et puis de toute façon on va revenir dessus en permanence. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement, très simplement, ce qu'est la pensée complexe ?
C'est un paradoxe, puisque la pensée complexe est quelque chose qui n'est pas simple. Mais ce que je peux vous le dire, c'est peut-être en prenant un exemple concret. Parce que, disons, le mot de pensée complexe ne m'est venu que tardivement.
Mais est-ce qu'il n'est pas venu rétroactivement éclairer votre démarche avant lui ?
Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire il me montrait que je faisais de la pensée complexe sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose.
Voilà.
Alors, pour vous donner un exemple, mon premier gros travail s'appelle « L'homme et la mort ». Pour écrire ce livre à la Bibliothèque nationale, où je cherchais à m'interroger sur les attitudes humaines devant la mort, je me suis rendu compte qu'au mot « mort », à l'époque, il n'y avait quasi rien. Et je me suis rendu compte que pour trouver mes sources, il fallait que j'aille dans l'ethnologie pour savoir les conceptions les plus archaïques, la préhistoire, puisque dès la préhistoire, on enterre les morts, la psychologie, à travers aussi la psychanalyse, Freud, Ferenczi et autres, l'histoire, bien entendu, et l'histoire des religions. Bref, il m'a fallu balayer tout le champ des sciences humaines et sociales, plus la biologie, puisqu'effectivement, nous sommes mortels. Alors, mon problème, la complexité, le mot « complexus » signifie ce qui est tissu ensemble. Tout ce qui était séparé et morcelé dans les différentes disciplines où je puisais, je devais les rassembler et les tisser ensemble. C'est un travail de pensée.
Le tissage, d'ailleurs, étymologiquement, c'est le texte, c'est l'origine du mot « texte ».
Exactement. Et donc, deuxième chose aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un paradoxe. Il y avait deux paradoxes. Le premier, c'est que les humains sont mortels comme les animaux. Pourtant, c'est la seule espèce qui pense qu'il y a une vie après la mort.
Est-ce que c'est si paradoxal que ça ?
Bien que,
on va en reparler. Hein.
Oui, mais bien que c'est peut-être la seule espèce où on prend pleinement conscience du phénomène, pas seulement de la décomposition du cadavre, mais la disparition du moi-je. Hein, voilà. Le deuxième paradoxe, c'est cette horreur de la mort qui se manifeste de mille façons, mais en même temps, chez les humains, on voit la capacité de donner sa vie, donc d'aller à la mort, quand il s'agit de défendre les siens, sa patrie, etc. Autrement dit, d'un côté, bon, c'est un paradoxe qui peut être élucidé en disant, d'un côté, il y a en nous un égocentrisme quasi vital, le moi-je, et le je, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais d'un autre côté, il y a en même temps le nous, l'attachement au nous, qui commence dès la petite enfance, et le nous peut, à ce moment-là, engloutir le je et dire au je, ben, sacrifie-toi pour le nous.
Vous pensez une altérité endogène, hein, Edgar Morin, la naissance de l'altérité à l'intérieur même du sujet.
Tout à fait. Parce que dès le nouveau-né a besoin du sourire, du bercement, et très tôt, on voit que les nouveau-nés abandonnés, sans bercement, sans présence, etc., dépérissent. Le besoin de l'autre est présent, je crois, dès la naissance, et bien entendu va se développer. Et c'est comme si nous avions un double logiciel chacun en nous, en tant que sujet, l'un, n'est-ce pas, égocentrique, qui dit « moi-je », et dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous défendre, etc., et l'autre qui inclut ce « je » dans un « nous ». Et à ce moment-là, au moment où le « nous » est menacé, eh bien, on sacrifie le « je » pour le « nous ». Et donc, c'était une façon, mais c'était intéressant. Mais à ce moment-là, je suis obligé de nier ces deux notions un peu contradictoires, hein, le « je » avant tout ou le « nous » avant tout. Et c'est à ce moment-là que je parle de dialogique, j'aurais pu dire dialectique, mais enfin c'est un terme que j'ai fait pour un peu pour dépasser le mot dialectique qui avait été assez usé.
Vous l'avez dialectiquement dépassé.
C'est ça, oui. Dialectiquement ou dialogiquement dépassé. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions qui sont fondamentales. Nous avons cette antinomie en nous, n'est-ce pas, où nous, tantôt nous sommes très égoïstes, et tantôt nous sommes très altruistes, et puis il y en a qui sont plus égoïstes que ça. Donc, j'avais besoin déjà de... Mais ce mot de dialogique ne me viendra que plus tard. Donc, c'est pour vous dire que dès ce premier travail, Complexus, je tisse ensemble des données, et avec quelques instruments conceptuels que je n'ai pas... pauvre, que je n'ai pas encore élaboré, ce qui vient plus tard. Et donc, la complexité, ça devient le défi pour moi. Et chaque fois que je traite quelque chose, je trouve des problèmes qui sont des véritables défis. Par exemple, j'ai fait une étude dans une commune en Bretagne, et là j'avais un défi, c'est-à-dire, je traitais de la modernisation de cette commune, pas seulement économique, technique, mais aussi mentale, les femmes qui changent, les jeunes qui changent, etc., qui est un courant qui traversait la France, et je me dis, comment respecter la singularité de cette commune, mais comment en même temps l'intégrer dans un courant général. J'avais les deux dangers, c'était noyer ma commune dans un tout, et le deuxième danger, c'était l'isoler du tout dont elle faisait partie. Bon, j'ai retrouvé tout ça. Mais je dois dire que c'est après mon voyage en Californie, après mon séjour, après avoir lu un certain nombre d'auteurs, de penseurs importants. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux, qui s'appelle Ashby, n'est-ce pas, qui est un mathématicien, un systémicien, qui définit la complexité comme le degré de variété d'un système. Ça veut dire quoi ? Ben, ça renvoie à cette idée d'unité et de multiplicité. C'est-à-dire, il faut comprendre que, par exemple, nous, en tant que système humain, par exemple, ben nous sommes faits d'une multiplicité de cellules très différentes, d'organes, etc. Mais nous sommes un en même temps. Bon, l'humanité, en général, elle est constituée de personnes qui sont génétiquement les mêmes, anatomiquement les mêmes, physiologiquement les mêmes et cérébralement les mêmes, à part quelques petites différences. Donc, il y a une unité humaine. Mais en même temps, cette unité ne se traduit qu'à travers des diversités. On dit par la culture, c'est le propre de l'humanité. C'est vrai, mais personne n'a jamais vu la culture. On ne connaît la culture qu'à travers les cultures, les langages.
En somme, vous récusez l'espèce de démarche nominaliste qui embrasserait toute réalité sous un concept unique, hein, Edgar Morin. Vous n'êtes pas cartésien. Je dirais à double titre. Dites-moi ce que vous en pensez. D'abord, c'est d'une expérience que vous parmi le tissage, la complexité, le réseau que vous constituez dans votre œuvre, il y a le lien, un des liens qui est opératoire, c'est le lien entre l'expérience et la théorie. C'est très frappant d'ailleurs quand on lit, on va parcourir quelques passages de votre journal de Californie, justement, de voir dans quelle mesure justement ce que vous dites dans le journal de Californie peut féconder ensuite des théories qui, si on les lisait toutes seules, donneraient le sentiment d'être désincarnées, d'être éloignées de leur source ou de l'expérience qui leur a donné le jour. Donc il y a un premier tissage comme ça, un ancrage empirique finalement de votre pensée. Et là où vous n'êtes pas cartésien non plus, c'est que chez Descartes, l'identité, malgré tout, qu'on le veuille ou non, elle s'obtient par séparation, elle s'obtient par exclusion, par rejet du monde extérieur et saisie de soi, consécutivement, pour le dire vite, hein, je récuse tout ce qui m'entoure parce que ça n'est pas absolument certain, je cherche ce qui est absolument certain, je finis par trouver le sentiment de mon existence et là, je mets le pied ou le doigt sur quelque chose d'indubitable et à partir de là, je reconstitue le système à l'intérieur de moi-même. Votre démarche n'est pas celle-là. Vous êtes d'emblée, en somme, en prise et de plein pied avec le monde.
Bien que je sois un grand admirateur de Descartes, il y a deux
points. C'est ce que disent tous ceux qui ne sont pas cartésiens, ça.
Non, mais deux points radicaux. Le premier, vous avez mis le doigt dessus, c'est la disjonction c'est pas seulement la séparation du moi-je et du reste du monde, c'est la séparation entre la science d'un côté et la philosophie, entre l'esprit et la matière, ce qu'il appelait l'étendue. Et c'est une pensée disjonctive qui, dans le fond, domine encore. Et moi, je pense que la complexité, c'est ce qui joint, c'est ce qui relie. Ça, c'est sûr. La deuxième chose qui me sépare de Descartes, c'est qu'il privilégie la pensée analytique, c'est-à-dire en disant ben, « j'ai une difficulté, je vais décomposer le problème en autant de petits bouts qui sera nécessaire, je traiterai chacun séparément et je résoudrai le problème ». Alors que, comme Pascal qui disait que toute chose étant aidée et aidante, causée et causante, et que toutes s'entretenant les unes les autres, y compris les plus lointaines, je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les parties, ni les parties si je ne connais le tout. Moi, je suis dans cette ligne-là. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est de n'appliquer que cette pensée de Pascal contemporaine Descartes. Donc, si vous voulez, c'est pas Descartes contre qui je m'oppose, c'est contre le cartésianisme, tel qu'il est entendu d'une façon commune. Et bien entendu, c'est là-dessus que... D'ailleurs, c'est peut-être instinctif en moi, cette... Vous savez, quand je suis entré dans l'université comme étudiant, j'avais une vague idée. Des camarades m'avaient dit « Marx ». J'avais une vague idée de ce qu'était Marx. Mais une chose me frappait, j'ai dit quand même, voilà quelqu'un qui a été un philosophe, et puis c'était un économiste, puis c'était un historien, et puis c'était un penseur politique, et puis il voulait embrasser toutes les sciences humaines. Alors, quand je suis entré à l'université, je me suis inscrit en histoire, je me suis inscrit en philosophie, et du reste en philosophie, il y avait sociologie à l'intérieur à cette époque, je me suis inscrit en sciences politiques et je me suis même inscrit en droit qui m'ennuyait parce qu'à l'époque, en droit, on enseignait la science économique. Et c'est un peu mon idée, c'était que tout ceci doit être lié. C'est une intuition d'adolescence liée à mes curiosités sans doute omnivores qui fait que j'étais propulsé dans ce sens-là.
Est-ce que de ce point de vue, on peut parler de votre pensée comme d'une religion au sens étymologique du terme, Edgar Morin ? Non pas au sens où il y aurait une transcendance qui viendrait unifier votre démarche, encore qu'il y ait un statut très important de l'unité dans la complexité, et on va voir à quoi il tient. Ça n'est pas l'unité qui est analytiquement requise par la complexité, à la façon de Descartes ou de Leibniz, c'est une autre forme d'unité, il faudra la saisir. Mais je parle de religion non pas au sens de quête d'une transcendance, mais de religion au sens où finalement toute démarche, alors là pour le coup on est chez Pascal, Pascal ne chercherait pas le Christ s'il ne l'avait déjà trouvé, au sens où il faut se situer à l'intérieur pour vous comprendre. On ne vous comprend pas de l'extérieur.
Certainement, mais qui comprend-on vraiment de l'extérieur ? De toute façon, ce que je crois, c'est que vous savez, chez Pascal, il y a une complémentarité et un conflit entre la foi et le doute. D'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté des pensées. Entre la raison et la religion. Mais lui, sa religion, il ne la justifie que par un pari. Il a très bien compris qu'on ne peut pas justifier par des arguments rationnels l'existence de Dieu.
Mais il a compris que démontrer Dieu, c'était le mettre à mort.
C'était le mettre à mort, et par là même, il a compris les faiblesses, les limites de la raison. Bon. Or, moi, bien entendu, je ne suis pas du tout religieux dans le sens de Pascal, c'est-à-dire je ne crois à aucune religion révélée, mais je suis animé par... Écoutez, j'étais communiste pendant la guerre, sous l'occupation, et pour moi, et pour beaucoup, mais
vous étiez communiste au bon moment.
Oui, certainement, une très bonne année, oui. Voilà. Et pour certains, ce qui se croyait totalement rationnel en étant communiste, ils ne savaient pas que c'était une religion de salut terrestre. Et moi, si je ne crois plus à ce salut terrestre, mais j'ai gardé, d'ailleurs mon livre Terre Patrie, tout ça l'indique, une religion de la fraternité humaine, mais qui relève du pari. C'est-à-dire, je sais très bien que cette fraternité ne doit pas nécessairement se réaliser.
Néanmoins, est-ce que c'est pour vous un acte de foi ?
Je suis arrivé au sentiment de ne pas pouvoir dissocier foi et doute. D'ailleurs, c'est Unamuno qui a dit...
Miguel de Unamuno, oui, hein, il faut le rappeler pour les auditeurs, qui est un penseur mystique, finalement.
Un penseur espagnol, il dit « au fait, sin duda no hay fe ». C'est-à-dire « au foi, sans doute, il n'y a pas de foi ». Et je pense que... Regardez Mère Teresa, n'est-ce pas, dont on apprend qu'elle était rongée toute sa vie par le doute.
Kierkegaard lui-même disait que qui n'a pas fait l'expérience du doute n'a pas la foi.
Tremble et tremble, bien sûr. Et moi, je crois que donc, je n'ai pas une foi qui domine et terrasse le doute, mais je n'ai pas un doute qui domine et terrasse ma foi. Mais elle est inséparable de la foi. C'est comme mes espérances sont inséparables de désespérance.
Je voudrais votre sentiment, Edgar Morin, sur un petit texte de Sacha Guitry. C'est cette conversation qui me conduit à le citer ici. Il parle de Dieu. Et il dit « Oh, je n'aime pas qu'on l'amadoue par des promesses et par des offrandes, et que par des offrandes on ait l'air quelque peu de lui graisser la patte. Je n'aime pas que l'homme en fasse un homme à sa piètre mesure. Quelque modeste que s'applique à paraître les croyants, je les trouve impudents et maladroits d'ailleurs. Ne pas... » Mais tout ça pour dire, à la fin de son texte, que ne pas croire en Dieu, c'est repousser c'est une hypothèse ravissante. Nier Dieu, c'est croire en soi. Comme crédulité, je n'en vois pas de pire. Et nier Dieu, c'est se priver de l'unique intérêt que peut avoir la mort. Et Guitry de conclure, pour ma part, je doute en Dieu. Vous reprenez ça à votre compte ?
À part que la notion de Dieu m'est devenue étrangère dans son sens pas seulement anthropomorphique, hein, de Père éternel, mais dans le sens d'un être qui créerait le monde de l'extérieur.
Une causalité transitive.
C'est ça. Et dans le fond, comme disait presque, c'était Laplace à Napoléon, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, mais je crois. Par contre, à la place de Dieu, je mets le mystère. Je pense que, d'ailleurs, tous les progrès des sciences, que ce soit en cosmologie, astrophysique, microphysique, etc., aboutissent à quelque chose d'indicible, d'innommable. C'est-à-dire, on arrive au-delà, pas seulement de la raison normale, mais je dirais au-delà même de ce que j'appelle la pensée complexe. La pensée complexe ne saisit pas les mystères des choses, elle les révèle. Donc, je crois profondément au mystère de l'existence que je verrai partout, dans le battement d'aile d'un papillon, dans le chant d'un oiseau, dans un visage qui me bouleverse. Le mystère est partout, bien entendu, si je pense à notre naissance, à notre mort, à notre destin, à notre cosmos, je le vois.
Mais Edgar Morin, pourtant, notre naissance, notre mort, le cosmos, c'est comme le vent, si vous voulez, c'est parfaitement mystérieux, mais en même temps, ça obéit à des lois très précises, et qu'on peut expliquer, dont on peut faire la généalogie. Seulement, si on en fait la généalogie ou l'explication, on ne leur donne pas un sens pour autant. Vous parlez de mystère. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux parler d'énigme à ce moment-là ?
Écoutez, une énigme, on peut toujours en trouver la solution. Un mystère, il n'y a peut-être pas de solution. Alors, je ne peux pas dire ce qui relève de l'énigme et ce qui relève du mystère, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais je crois que, par exemple, les lois de la nature ont leurs propres limites. Et du reste, je pense que... On peut connaître, et je suis pour la connaissance maximale, mais parce que par cette connaissance maximale, on arrive aux frontières d'un inconnu. America, do you ever think this world is yours? Huh? And you, Russia, hey, do you ever think this world is yours? You, China, do you ever think this world is yours? And you, Cuba, hey, yeah.
Pourquoi ces quelques mesures, Edgar Morin ? Parce que la chanson s'appelle « Better Change Your Mind ». En d'autres termes, il vaut mieux réformer son entendement à la façon dont Spinoza pouvait le penser, justement. Vous ne croyez pas, vous croyez au mystère, vous le dites, et le monde, de ce point de vue, vous apparaît merveilleux. Ça va du battement d'aile du papillon jusqu'au sentiment de la
naissance. Aussi, et horrible.
Merveilleux et horrible. Enfin, vous vous donnez les moyens de le regarder comme une merveille également. Aussi, vous fonctionnez néanmoins par, j'allais dire, non pas vérité révélée, mais par révélation. Je vous lis dans votre journal de Californie. Soudain, à mi-sommeil, une pensée. Que la structure sociale n'est pas calquée sur la structure biologique, mais la répète en écho inachevé et assourdi. Mais alors, pourquoi certaines espèces seulement sont-elles sociales ? Abeilles, fourmis, termites, humanité. L'humanité est le cas tangent. Alors que chez les abeilles et les fourmis, le principe de hiérarchisation, structuration s'impose de façon rigide et que les individus sont comme les cellules composant l'être social, chez l'homme, il y a une ambivalence et une instabilité ontologique. Qui est l'être ? L'individu ou la société ? Edgar Morin, effectivement, quand on vit dans la société, là, à notre hauteur d'homme, on est confronté à des mystères, à des énigmes et on a surtout le sentiment d'être à l'origine de ses actes. Mais quand on prend un hélicoptère et qu'on regarde les comportements humains d'en haut, quelle différence faites-vous entre une ville une fourmilière ?
Ah, de très haut, il n'y a pas une grande différence, et je dirais même que, même en allant pas si haut, quand il y a le soleil apparaît et chauffe, même en plein hiver, on voit les gens comme des fourmis sortir et s'attabler dans les terrasses de bistrot. Enfin, il y a beaucoup de comportements qui ressemblent, qui sont comme des tropismes. Mais, quand nous regardons au niveau individuel, tout change. Et c'est ça, je pense aussi, la complexité. C'est que tout dépend du point de vue. Quand vous êtes sociologue, pour vous, les individus, ce sont purement des instruments d'un ensemble social. Ce sont peut-être presque des marionnettes quasi déterminées. Mais quand vous êtes psychologue, à ce moment-là, la société devient une sorte de sac mou qui enveloppe les individus, qui sont les seules réalités. Et je pense que la pensée complexe, c'est la multiréférentialité, c'est-à-dire on accepte qu'il y a une pluralité de points de vue, même si ces points de vue, évidemment, ne peuvent pas exactement coïncider. En ce qui concerne la relation individu-société, moi j'ai défini l'humain comme une réalité trinitaire. Une réalité trinitaire...
On n'est pas loin de la religion, là, encore.
Oui, mais ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que dans la Trinité chrétienne,
Sainte Trinité,
c'est que vous voyez une sorte de boucle, parce que Dieu crée le Saint-Esprit, il génère le Saint-Esprit, qui génère le Fils,
qui est lui-même le père de son père.
Hein. Régénère son père, oui, bien sûr, régénère son père. Il y a une boucle. Or, moi, je vois la relation individu, société, espèce de façon trinitaire, c'est-à-dire un processus de reproduction qu'on appelle l'espèce produit les individus, mais les individus eux-mêmes en s'accouplant produisent ce processus. Les individus dans leur interaction créent la société, mais la société en tant qu'organisme avec son langage, sa culture, rétroagit sur les individus et leur permet de devenir des humains pleinement, alors que s'ils vivaient hors de toute société, ce seraient des primates d'un rang inférieur. Donc, individus, sociétés, espèces se génèrent les unes des autres, et c'est ici qu'un des thèmes de la pensée complexe est important, ce que j'appelle la boucle récursive. La boucle, c'est un processus où les effets et les produits sont nécessaires à leur causation et à leur production. C'est-à-dire, nous sommes produits et producteurs à la fois. Donc, c'est un peu ça, ma vue, finalement.
On ne
peut pas dire que l'homme, c'est uniquement un individu. On ne peut pas dire que c'est uniquement la société. On peut dire que c'est uniquement l'espèce.
Ça va avec ce que vous disiez tout à l'heure d'une divinité qui ne serait pas causalité transitive du monde, mais causalité immanente. Quand Spinoza parle de causalité immanente, il dit que Dieu est cause de lui-même, en causant le monde, et qu'en somme, il est producteur autant que produit, puisqu'on peut l'envisager sous l'angle de la nature naturée ou de la nature naturante.
Eh bien, c'est exactement ce qui se passe du point de vue de la nature. La nature naturante, elle est cause d'elle-même. Enfin, moi, une des idées auxquelles je suis arrivé dans mon travail, dans mon cheminement, c'est l'idée de autoproduction, auto-organisation, en ce qui concerne, par exemple, l'être humain. Mais je sais très bien que nous sommes des êtres auto-organisateurs, mais que nous avons besoin de notre environnement social, voire biologique, pour nous nourrir d'idées, quand c'est social, de produits alimentaires. Donc, nous sommes des êtres autonomes, mais notre autonomie, en somme, a besoin de dépendre du milieu extérieur. Alors que le paradoxe de l'univers ou de la nature, c'est qu'il est auto-producteur, mais on ne voit pas où il trouve son aliment extérieur. Ça, alors donc, pour moi, c'est une énigme. Mais de toute façon...
Causa sui.
On reste dans la causa sui, évidemment. Au lieu de l'appliquer à Dieu, ce que font les théologiens normalement, je l'applique à la nature. Puis aussi une autre chose, c'est que, effectivement, il y a des théologies négatives. Vous avez des théologies négatives dans
lesquelles... En somme, pour le dire rapidement, hein, pointe Dieu par tout ce qu'on ne peut pas dire de lui, finalement. Font la liste de tout ce qu'on ne peut pas dire de lui pour dire que reste-t-il ensuite.
Voilà. Alors, quand vous videz Dieu de tout attribut, alors effectivement, vous retrouvez un être mystérieux. C'est comme dans l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, où Moïse passe son temps à dire « Oh Gott, une Denkbar, oh Dieu impensable, indicible, invisible, etc. » Il passe son temps à répéter qu'on ne peut pas parler de Dieu, n'est-ce pas ? Bon, mais seulement lui, il reste avec cette idée de Dieu extérieur, alors que moi, je pense que ce Dieu n'existe pas, sinon, dans la créativité naturelle.
Deux observations quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire, d'une part, que la pensée complexe telle que vous la développez, autour de laquelle on va travailler pendant ces émissions, récuse toute approche univoque et par conséquent, toute approche militante, en somme, part du principe qu'à la fin d'une vérité, il faut toujours envisager la vérité d'en face ? Ça, c'est le premier point. Et la deuxième question que je veux vous poser, même s'il est un peu tard pour vous la poser, mais on va repartir là-dessus hein, dès demain. Quelle place faites-vous à la question du suicide, par exemple ? Durkheim, dans son étude fameuse sur le suicide, expliquait qu'on se suicidait plus ou moins selon qu'on était protestant, juif, catholique, paysan, ouvrier, bourgeois, croyant, pas croyant, etc., etc. Mais l'étude de Durkheim sur le suicide n'épuise pas, et à aucun moment, les raisons intimes qui portent un homme à mettre un terme à ses jours. Est-ce qu'il n'y a pas hétérogénéité radicale des ensembles que vous pointez, en l'occurrence, entre la psychologie et la sociologie, par exemple, dans le fait que le suicide, on a beau dire qu'on se suicide plus dans certaines classes que dans d'autres, on n'arrivera jamais à épuiser les raisons qui portent un homme à mettre un terme à ses jours. Edgar Morin.
Alors, tout d'abord, vous savez qu'on a contesté l'étude de Durkheim pour la raison que, par exemple, si, d'après les statistiques, on se suicide plus chez les protestants que chez les catholiques, c'est que c'est chez les catholiques, comme on sait très bien que le suicidé n'aura pas droit aux funérailles religieuses, on camoufle le suicide. Ce qui fait que, finalement, c'est vrai qu'il y a des différences, mais la thèse importante, et moi c'était ça qui m'avait fasciné quand j'étais étudiant, c'est qu'on avait l'impression que le suicide, qui est l'acte apparemment le plus individuel que ça, a quand même des causes sociologiques. Et ce qui reste en gros vrai, c'est qu'on se suicide moins en temps de guerre qu'en temps de paix. Pas seulement parce qu'on a plus de chances d'être tué par l'ennemi, mais aussi parce qu'on est plus dans ce « nous ». Autrement dit, plus on est dans une communauté, on vit la chaleur d'une communauté, moins on a, la tentation de se suicider.
Oui, mais même à l'intérieur d'une communauté, il y a des suicides.
Bien entendu, mais alors là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur...
Même dans une foule, il y a des suicides.
Une foule n'est pas une communauté, mais ce que je crois, c'est que les causes subjective, individuelle de suicide, serait de deux ordres. Le premier, c'est que nous avons des tempéraments neurasthéniques, c'est-à-dire qui n'éprouvent aucune jouissance de la vie, bien qu'ils semblent absolument normaux. Moi, j'ai connu des amis, et finalement, ils se suicident parce que c'est trop dur de vivre. Une deuxième cause de suicide est liée plutôt à des aspects cyclotimiques. On passe par des phases de dépression et d'exaltation, et qu'à un moment donné de dépression, si en plus il y a certains événements très très perturbants, il peut y avoir cette tentation, on en finit, je souffre trop. On peut dire aussi qu'il y a aussi des suicides, enfin, dans certaines situations de vengeance. Dans la Chine traditionnelle, on se suicidait devant la porte de son ennemi pour que ce fantôme vienne vous hanter. Et souvent, on se suicide. C'est un appel au secours. Il y a des suicides qui sont des appels au secours.
Restons là-dessus, Edgar Morin, sur cette phrase, parce qu'on va reprendre sur ce sujet très exactement demain, donc au point exact où nous avons laissé la conversation. Je vous remercie d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, évidemment, en particulier de La Méthode, évidemment, l'ouvrage fameux, votre maître-œuvre, on peut dire, qui va paraître là en deux volumes, sous coffret, au Seuil, dans la collection Opus, le 14 février 2008, et ainsi que Le Destin de l'Animal, Où va le Monde et Vers l'Abîme, tous parus au Cahier de Lerne en 2007. À la technique aujourd'hui, Axel Brizard, à la réalisation Ghislaine David, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura et Marion Richer. France Culture, il est 20h. Et tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.